Ça marche? Allez.
Donc bonjour. Je vais prier et on va ouvrir la Bible ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta bonté envers nous, pour ton amour envers nous. Merci parce que tu es avec nous chaque jour de notre vie. Et je te prie d'ouvrir nos cœurs ce matin, qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire. Et Saint-Esprit, je te prie d'agir à travers ta parole, comme tu nous as dit que tu allais le faire, Seigneur, et que les mots que tu prononces, Seigneur, ils soient puissants, ils soient empreints de tout cet amour, de toute cette majesté qui est à toi, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un passage dans la première épître de Pierre. On va se focaliser sur les versets de 3 à 9, mais je vais lire à partir du verset 1. C'est un passage hyper, hyper dense. Je pense que presque à chaque mot, j'aurais pu faire une prédication. Mais c'est aussi ça que j'aimerais transmettre au-delà de mes points, de mes notes, c'est regardez à quel point la parole de Dieu est riche. Et s'il y a une chose, si vous retenez que de ça, que j'ai envie d'aller fouiller plus et d'apprendre plus, ça me va. Si tout le reste que je vous dis, ça ne vous parle pas, mais que vous saisissez ça, je serai content parce que c'est un passage qui est merveilleux. Du coup, vous serez peut-être frustré, je vais passer vite sur certains points, mais c'est aussi le but, que vous soyez frustré à certains moments pour que vous puissiez y retourner, que vous ayez envie d'en apprendre plus. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le début du verset 3, et ça va être un peu mon point de départ pour parler de la louange, de qu'est-ce que ça veut dire de louer Dieu. Et on va voir que c'est une louange qui va jusque dans la souffrance, et que la véritable louange, elle continue jusque-là. Et on va voir comment on fait pour que notre louange elle continue jusque-là, parce que ce n'est pas évident de prime abord. Donc, pourquoi bénir Dieu? C'est quoi les fondations de la louange? Et on va voir que c'est fondé sur l'identité qui est claire, qui est sécurisée, que Dieu nous donne, et l'espérance, qu'on a été racheté par Dieu, on l'a dit, on l'a chanté, on a été racheté, mais pour quelque chose qui va venir. Et donc, la louange qui va jusque dans la souffrance. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie et le bassin Nîmois, ça nous concerne aussi. À vous qui avez été choisis, on a été choisis, conformément à la préscience de Dieu le Père, donc il le savait déjà d'avance, qu'il allait nous choisir, conduit à la sainteté, là encore, lourd de sens, on a été conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir, donc il y a un but, afin de, on a été racheté pour quelque chose, afin de devenir obéissant, pour une vie d'obéissance, et d'être purifié, c'est une vie on est appelé à la pureté, mais pas la pureté par nos efforts, mais par le sang, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Christ, de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez ? Donc là, il y avait déjà 4 ou 5 dimanches, on pourrait rester dessus. Mais verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et dont l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Donc, la louange. La louange. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Donc béni, c'est la première chose que Pierre y dit. Pierre, c'est le chef de l'Église, c'est l'apôtre à qui Jésus a donné les clés de l'Église. D'ailleurs, les illustrations catholiques montrent Pierre avec des clés. C'est lui qui porte l'Église, qui donne un peu l'impulsion à l'Église. Et dans sa lettre aux chrétiens, il commence, après l'introduction, en disant « Béni soit Dieu ». Béni soit Dieu. C'est la première chose qu'il fait, c'est la première chose qu'il veut dire à l'Église. C'est bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Donc bénir, ça veut dire dire du bien. En d'autres sens, c'est louer. Si appliqué à Dieu, ça veut dire louer. Entre nous, si je bénis quelqu'un, ça ne veut pas dire pareil, mais quand je parle à Dieu, si je le bénis, je le loue. C'est le même champ lexical. Parce que l'essence de la louange, ce n'est pas d'apporter quelque chose de plus à Dieu. Quand je bénis Dieu, quand je loue Dieu, je ne suis pas en train de le rendre plus mieux. Je n'apporte rien à Dieu, mais je proclame ce qui est. Ce qui est déjà là, Dieu. Je proclame qui il est et ce qu'il a fait et ce qu'on a fait ce matin. Et d'ailleurs, ça va au-delà des mots. On a vu, c'était joli. Je ne pourrais pas parler de la technique parce que je ne suis pas musicien, mais c'était joli, ça donnait envie. Mais au-delà de ça, ce que vous nous avez amené, c'était des sourires, c'était une attitude, parce que c'est au-delà des mots. La véritable louange, elle va au-delà des mots. Elle passe par les mots, mais elle va au-delà des mots. Parce qu'on a été créé pour louer. On a été créé pour louer. L'essence qui définit l'être humain, c'est loue Dieu, bénis Dieu. Ésaïe 45, verset 6. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. Glorifier Dieu, c'est aussi louer Dieu, c'est aussi bénir Dieu. Et on a été créés pour sa gloire. Pourquoi je suis là ? Pour glorifier Dieu. Donc béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça commence là. Et que j'ai formé, et que j'ai fait, il nous a fait. Et on voit déjà là qu'il y a une notion d'identité. Appelez mes fils et mes filles. C'est ce qui est convenable de faire pour nous, êtres humains. Louer Dieu, bénir Dieu. Avoir ce cri du cœur, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça commence là. Mais ça va au-delà des mots. J'ai dit, si Dieu était le Dieu de l'argent, de la luxure, alors poursuivre ces choses, ce serait le louer. Parce que si Dieu est le Dieu de la richesse, eh ben, il faut que je sois riche pour louer Dieu. S'il était Dieu, le Dieu, pour aller plus loin, du meurtre ou du vol, tuer, voler, ce serait louer Dieu. Parce qu'il est le Dieu du meurtre. Donc question, qui est Dieu ? C'est important. C'est vachement important du coup, si on parle de louer, qui est Dieu ? Comment je loue Dieu ? Continuons verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Notre Dieu est bon. Dans certaines traductions, je ne sais pas si laquelle vous lisez, il parle de la miséricorde de Dieu, c'est notre Dieu s'écarte de son chemin pour celui qui a besoin d'aide, malgré le fait qu'il ne mérite rien. Donc, je ne mérite rien, mais le fait que Dieu soit bon, c'est-à-dire qu'il s'écarte de son chemin, il fait l'effort, il va jusqu'à la souffrance même pour moi. Et du coup, louer Dieu, c'est être bon, c'est faire pareil. Donc, je vous ai dit, la louange qu'on a pour Dieu, elle est basée sur des choses. Elle est basée sur notre identité qu'il nous donne. C'est pour ça que je peux le louer. Parce qu'on le sait, ce n'est pas forcément évident de louer Dieu, de se mettre nous de côté pour louer Dieu, de se mettre nous de côté pour aider quelqu'un d'autre. Mais donc sur quoi ça se base ? Comment est-ce que je fais pour louer, pour dire béni soit Dieu comme ça ? Sur mon identité qui est en Christ. Verset 4. C'est ça ? Attendez, est-ce que je vais trop vite? Non. On est encore dans le verset 3. Donc, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. C'est la base de ma louange, c'est la base, on a vu, de mon espérance. Je suis né de nouveau. Quand Jésus dit ça à Nicodème, le pharisien, la question qu'il lui pose, Nicodème, c'est « comment je fais pour accéder à Dieu ?» Comment je fais? Et Jésus lui dit « il faut naître de nouveau ». Et donc, on peut peut-être se moquer de sa réponse à Nicodème, de dire « mais comment je fais pour rentrer? Il faut que je rentre dans le ventre de ma mère ?» Non, il savait qu'il ne pouvait pas le faire, mais c'est justement ça la question. Je sais que je ne peux pas naître de nouveau, donc comment je fais? J'ai envie d'accéder à Dieu, comment je fais? Et c'est la question qu'on a tous, comment je fais pour naître de nouveau? 2 Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont nouvelles pour celui qui est en Christ. » Donc en Christ, j'ai une nouvelle identité, je suis quelque chose de nouveau. J'étais quelque chose avant, en Christ je deviens autre chose. Et c'est à partir de là que je peux vraiment avoir une louange. Et c'est pourquoi que je suis né de nouveau, pour une espérance vivante. Ouais. Il y a un but à la nouvelle naissance. Il y a un but à ma nouvelle identité. Et c'est une espérance qui est vivante. Ce qui nous est promis, ce n'est pas que pour maintenant. Il y a quelque chose qui doit nous faire trépigner d'impatience. C'est une espérance vivante. J'espère à quelque chose. Quand Chloé, elle s'approchait de ses 3 ans en janvier, tous les jours, elle disait « c'est aujourd'hui ?» Est-ce que c'est aujourd'hui? Son anniversaire, il était vrai. Le 21 janvier, elle avait 3 ans. Elle espérait tous les jours. C'est « est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans cette attitude-là tous les jours ?» Non, parce qu'il y a toute la vie qui nous accompagne, mais je pense que c'est important qu'on garde ça en tête, parce que plus j'y pense, plus je trépigne d'impatience. Et même quand je pense à autre chose, il y a quand même ce fond qui me pousse vers l'impatience. Je sais qu'il y a autre chose. J'ai une espérance qui est vivante. Voilà, maintenant je peux changer de diapo. Verset 4, on va parler de cette espérance. Donc, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel. Donc c'est quoi notre espérance? L'héritage. C'est un héritage. Un héritage? L'héritage, c'est quoi? Quand mon parent meurt, je reçois ce qu'il avait. Je suis né de nouveau en Christ, donc mon héritage, il vient de qui? Il vient de Dieu. Je suis co-héritier des richesses de Christ. C'est ça que ça veut dire, mesdames, je suis désolé, vous pouvez être choqués de dire vous êtes fils de Dieu, mais ça parle de ça. Ça parle pas de votre genre, ça parle de vous êtes héritier. À l'époque, c'était que, enfin, principalement fils aîné qui héritait. Et donc, nous sommes fils héritiers de Dieu, des richesses de Dieu. Lui qui dit, mais tout l'or de la terre m'appartient. Si j'ai faim, j'ai pas besoin que vous me fassiez des sacrifices. Toutes les bêtes de la forêt m'appartiennent, il suffit que j'en choisisse une. L'univers entier m'appartient. Nous sommes héritiers de lui. Ça vous fait pas trépigner d'impatience d'en penser? C'est ça notre espérance. Et elle ne peut pas se détruire, notre espérance. Qui ne peut se détruire? Ça veut dire que notre héritage, il est là, il existe. C'est quelque chose de vrai, puisqu'il ne peut pas être détruit. Comment je peux détruire quelque chose qui n'existe pas? Notre héritage est réel. Regardez l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, toutes les descriptions qu'il y a. C'est des choses vraies, c'est des choses physiques, c'est des choses qu'on peut regarder, qu'on peut voir, qu'on peut sentir. Qui ne peut pas se souiller, cet héritage. Il ne peut pas se souiller. Notre héritage est pur. Il est simplement bon. Il est seulement bon. Il n'y a rien de mauvais qui peut être dans cet héritage. Et même moi, je ne peux rien faire de mauvais avec. Je peux même pas m'enorgueillir de cet héritage. Je ne peux même pas dire « Ah, regardez comme je suis trop fort, j'ai cet héritage. » Non, parce qu'il est pur. C'est un héritage qui est pur. Il n'y aura rien de mauvais dans cet héritage. On voit là toutes les disputes qu'il peut y avoir entre des frères et sœurs après la mort triste de leurs parents. Et au-dessus de ça, il y a encore des problèmes d'héritage. Dans celui-là, il n'y aura rien de mauvais. Qui ne peut pas perdre son éclat, notre héritage est glorieux. Il est glorieux, il est éclatant de lumière. Il est resplendissant de la gloire de Dieu. Dieu, la beauté et la valeur ultime. La définition de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui a de la valeur. Notre héritage a cette gloire-là. À la fin de sa lettre, Pierre il dit, chapitre 5, verset 4, « Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, Jésus, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » La couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. C'est ça notre héritage. Il est là. C'est vers ça que je regarde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Non ? C.S. Lewis a dit, ou il a écrit plutôt, « Lorsque les courants de pensée modernes prétendent que désirer ce qui est bon pour nous et soupirer après le désir sont des attentes répréhensibles, je les soupçonne d'être contaminés par Kant et les stoïciens et en aucun cas par la foi chrétienne. » C'est pas grave si vous comprenez pas qui c'est Kant et les stoïciens, mais ce qui est important, c'est ce qui vient après. « En effet, si l'on considère dans les évangiles le nombre impressionnant de promesses et de récompenses et la nature surprenante de toutes ces récompenses, il semblerait bien que notre Seigneur ne trouve pas nos désirs trop intenses, mais au contraire trop faibles. Nous sommes des créatures au cœur partagé qui perdent leur temps avec l'alcool, le sexe, les ambitions personnelles, alors qu'une joie infinie leur est proposée. C'est un peu comme ce pauvre gamin qui préfère continuer à faire des pâtés dans la boue d'un bidonville parce qu'il ne peut pas comprendre ce que signifie l'offre qu'on lui a faite d'aller passer des belles vacances à la plage. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Notre espérance est glorieuse, elle est imméritée et glorieuse. Elle est plus attrayante que la réussite ou l'argent. Ou le petit copain, la petite copine, ou voilà, il a dit le sexe, l'alcool. Il est même plus important que ma vie, et plus attirant même que ma vie. C'est pour ça que Paul, il dit, c'est la mort est un gain. Parce que j'irai avec lui. Vous vous rendez compte, si je meurs, je vais là-bas, mais si je meurs, je gagne. C'est pour ça qu'il dit, dans Philippiens, je cours les yeux fixés sur l'objectif. Et je le veux, ça. J'ai une impatience à l'avoir cet héritage, de le saisir complètement, parce que ce que j'ai là maintenant, j'en ai beaucoup. On a vu les témoignages, mais c'est imparfait, c'est incomplet plutôt. Et je cours pour l'avoir. C'est la différence entre un petit merci dans ma louange, accompagné d'amertume ou même de colère contre Dieu quand ça va pas. C'est la différence entre ça, ce petit merci, et un profond soupir de satisfaction en bénissant Dieu. Quelles que soient les circonstances. C'est une différence fondamentale. À quoi je regarde? Pourquoi je loue Dieu? Pourquoi je loue Dieu? Parce que je suis en bonne santé? Ou parce que j'ai envie d'avoir la bonne santé, donc je me dis, si je loue Dieu, je l'aurai? Parce que ma famille va bien? Parce que ce que je veux, je l'ai? Parce que je suis confortable? Ou est-ce que je loue Dieu parce que j'ai une nouvelle identité et une espérance qui est glorieuse? Pourquoi je loue Dieu? Et comment on vit concrètement cela? Comment on le vit concrètement? Est-ce qu'on le vit concrètement? Parce que moi, je veux me satisfaire de ce qui satisfait vraiment. C'est un combat tous les jours. Je me mets dedans. Je le veux, ça. Je le veux. Vous ne le voulez pas, vous? Eh oui, on le veut tous. On continue parce qu'il y a encore plein de choses à voir dans ce texte. À verset 5, « À vous qui êtes gardés, donc à nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » On est gardés par la puissance de Dieu. On est gardés par la puissance de Dieu. Hein. Elle nous donne une sécurité. Je suis gardé. Mon héritage est gardé. Mon identité est gardée. Ça me donne un statut. Je suis celui qui est gardé. Ça me permet de faire face à certaines choses en disant non, moi je suis celui qui est gardé. C'est la puissance de Dieu qui a relevé Jésus d'entre les morts, qui vit en moi. On ne peut plus la référence de ce verset. Elle vit en moi, cette puissance. Et même dans les larmes et les tourments, rien ne se passe hors de son contrôle parce que je suis gardé. Même quand c'est dur, je suis quand même gardé. Et ça, on va revenir plus tard dessus. Donc, on est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Par quel moyen est-ce que j'obtiens cette protection? par mon mérite, par mes efforts, parce que je suis un mec bien, parce que je suis un boss. Rigole pas. Non, c'est par la foi. C'est pas moi, c'est lui. C'est parce que Jésus a fait ce qu'il a fait. Et que moi, je m'avance et je dis, ok, vas-y, je prends. J'accepte ton cadeau, c'est tout ce que j'ai à faire. C'est ça la foi. C'est quelque chose à la fois essentiellement simple, mais à la fois très compliqué, parce que ça me demande de mettre de côté pas mal de choses. Mais c'est pas un effort tous les jours qui fait que je suis gardé, que j'ai une nouvelle identité et que j'ai accès à cette espérance. C'est la foi, c'est la foi. C'est l'œuvre parfaite déjà accomplie de Jésus qui me garantit l'héritage et l'identité. Ces choses qui sont protégées. Donc on arrive au verset 6, où là, Pierre, il nous a guidés, il nous a pris par la main, il nous a montré ces choses, et on arrive au nœud là, de ce qu'il veut nous dire, là où il a vraiment envie qu'on persévère. Jusqu'où est-ce qu'elle va, ce cri de « Je bénis Dieu ?» Jusqu'où est-ce que je vais le bénir ? Jusqu'où est-ce qu'on va dans notre louange ? Verset 6, c'est ce qui fait notre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. C'est ce qui fait notre joie, on a vu. La transition, c'est, tout ça, vous êtes joyeux, non ? Ça ne vous donne pas envie de vous réjouir. C'est pour ça que je trouvais ça trop bien que les musiciens, ils avaient le sourire pendant qu'ils chantaient, ils sautaient. C'est la louange, c'est un acte de joie, c'est un acte de réjouissance. J'étais trop content de voir ceux qui savent danser, qui osaient dire « peut-être que je me trompais, j'aurais peut-être la honte, mais c'est pas grave, je suis joyeux, je le fais ». Je trouve qu'on manque un peu de ça en France et dans notre église à Montpellier en particulier. J'étais trop content de vous voir faire ça. C'est un acte de joie, la louange. C'est le débordement de joie qui fait que je loue. Le mot qui est utilisé pour joie, j'ai fait une petite recherche, ça veut dire exulter, se réjouir fortement, être extrêmement heureux. Ça veut dire allégresse, tressaillir de joie. C'est ça la joie dont on parle. C'est pas juste je souris. Je tressaillis de joie. Et c'est, donc on a vu, c'était fondé sur les certitudes de la prédestination, verset 1. La purification et les rédemptions de Jésus, verset 3. L'œuvre de l'Esprit en moi qui me garantit ma place avec Dieu, verset 2 et verset 5. Et c'est fondé sur l'espérance d'un héritage et d'un salut éternel, verset 4. C'est pour ça que je me réjouis. Et c'est pour ça que je loue. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un temps attristé par diverses épreuves. Donc même dans l'épreuve, je me réjouis. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, je me réjouis et maintenant, je suis attristé. Maintenant, je suis dans l'épreuve, mais je me réjouis. C'est le même maintenant. Et c'est là qu'on arrive au vrai problème, à la vraie question que ça pose. Comment on peut parler d'autant de joie alors que le monde est dans cet état ? Alors même que je souffre autant, ou que vous souffrez autant, c'est presque une provocation. Tu me dis de me réjouir là ? Tu me connais pas ? Tu comprends pas ? Tu sais pas ce que je traverse et tu me dis de me réjouir ? Non, je vous provoque pas. Parce que ce que ça vient dire là, premièrement, c'est que la vérité, c'est que les souffrances, les afflictions, elles existent vraiment. Ça existe vraiment. Je ne suis pas en train de nier l'existence des afflictions. Je suis en train de dire qu'elles existent. Je ne suis pas en train de dire que personne ne souffre, ou vous ne devriez pas souffrir, ou si vous souffrez, vous n'avez pas assez de foi. Non. Non. Elles existent. S'il y a tant de joie pour moi, qu'est-ce que je fais avec toutes mes douleurs alors ? Mon mariage qui est en difficulté ? J'ai des problèmes avec mes enfants, je n'arrive pas. J'ai vécu ce traumatisme-là que je porte tous les jours, je me réveille avec. Je me couche avec, je ne dors pas avec. Je me sens nul à cause de ça. Je le traîne comme un boulet. Je suis en deuil, là. J'arrive pas à sourire. Mon travail, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Je l'aime pas, mais je peux pas m'en sortir. Je peux pas. Il faut que je travaille. Je trouve pas ma place. Ça va pas. Ou je suis au chômage, j'arrive pas à trouver du boulot. Et puis les prix augmentent. Et puis comment je fais? Je suis harcelé à l'école. Tous les jours, je me lève. Mes parents m'obligent à aller à l'école, mais j'ai peur. J'ai honte, je me sens nul. J'y arrive pas. Je suis malade. Mes proches sont malades. La souffrance, elle existe. Et on ne le nie pas. Mais comment je fais? Quand je me lève tous les matins, je suis devant mon miroir et je sais ce qui m'attend. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, ce que je vous dis? Je pense que ça change tout. Ça change tout. Puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Il est bizarre ce mot. Puisqu'il le faut. Pourquoi il a rajouté ça? Qui le dit? Qui décide qu'il le faut? C'est le diable avec sa petite fourche là qui va nous torturer toute l'éternité? Non. À aucun moment dans la Bible, il y a une once de doute de peut-être que le diable, il y a un équilibre des forces entre Dieu et le diable. Jamais dans la Bible. C'est une idée qui ne nous vient pas de la Bible, ça. De dire qu'il y a le diable et Dieu qui se battent et du coup nous on est au milieu et on souffre, c'est pas dans la Bible ça. Dire que c'est Dieu qui est pas assez puissant et du coup c'est le diable nous fait souffrir, non. Puisqu'il le faut, qui c'est? Dieu. Dieu. C'est pas lui qui ordonne la souffrance, on le voit dans Job, mais c'est lui qui le permet. Dans Job, le diable vient voir Dieu et lui dit: j'ai envie de faire souffrir Job, et il dit vas-y. Puisqu'il le faut, qui c'est qui dit qu'il le faut? C'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un but dans ce qu'on vit. Il y a un but, Dieu a un but en nous laissant la souffrance venir à nous. Puisqu'il le faut, ça veut dire qu'il ordonne les choses. Ça veut dire que c'est pas en dehors de son contrôle, puisqu'il a dit qu'il le fallait. Si je dis à ma fille, il faut que tu fasses ça, je sais pourquoi. Peut-être qu'elle ne comprendra pas, mais moi je sais, puisque je dis qu'il le faut. C'est pas, ah non mince, comment on fait? Si je dis il le faut, ça veut dire que je le contrôle. Donc quand Pierre il dit il le faut, il dit que Dieu est en train de contrôler ce qui se passe là. Et rappelez-vous, verset 5, on est gardé par la puissance de Dieu, on est gardé par l'Esprit qui nous témoigne de Jésus. Et c'est écrit sur Jésus dans Hébreux 12, verset 2, « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix. » Donc c'est possible de souffrir dans la joie. Jésus, quand Lazare, son ami, meurt, et son ami Marthe vient le voir, il pleure avec Marie, pardon. Malgré la joie, qui sait qu'il va avoir quand il va voir son ami ressortir de la tombe? Du fond de mon trou, qu'est-ce que ça veut dire? Du fond de mon trou, du fond de ma souffrance, du fond de ma douleur. Je le regarde et il me voit. Je le regarde et il me voit. Il n'y a pas d'autre religion ou une pensée philosophique où Dieu souffre avec nous. Il n'y a que la Bible qui parle de ça. Et il nous dit, garde la foi, reste près de moi. Je suis la source de la vie, ton rocher et ta forteresse. Moi, je pleure avec toi. Je te connais, je t'aime. Tiens ferme jusqu'au bout. Hébreux 12, on va reprendre dans le contexte cette idée de la joie dans la souffrance de Christ. C'est écrit, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'épreuve dans la douleur. Courons avec persévérance. Faisons-le en gardant les yeux, le regard sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a eu sa glorieuse récompense, son héritage. Et donc c'est sur Jésus que je regarde. C'est à Jésus que je regarde. On a pris la scène, c'est son sang qui a coulé, c'est son corps qui a été brisé, pour que justement je ne sois pas seul dans la souffrance. Je ne suis pas seul. Donc le matin, devant la liste des choses dures que j'ai à faire, devant mes problèmes à régler ou les douleurs que je dois traverser, je me dis, encore un peu de temps. encore un peu de temps. Ça va se terminer un moment. Je suis en sécurité en Christ, mon identité. Ça ne va pas toucher qui je suis. Ce que je passe, ça n'affecte pas qui je suis, mon identité, qui je suis, ce qui me donne la consistance propre, interne, ce n'est pas affecté par ce qui se passe autour de moi. Je me dis, reviens vite, Jésus. Parce que quand tu reviendras, moi je serai dans ce pays sans douleur, sans larmes, sans maladie. Reviens vite, j'ai besoin de toi. Et garde-moi, Seigneur, ne me lâche pas. Parce que je sais que tu me tiens. Je sais que dans mon trou, tu y es, toi aussi. Donc ça change tout. Moi, j'ai vécu dans ma vie des défis. J'ai eu des moments de douleur, mais probablement il y a des gens ici qui ont vécu plus dur que moi. Mais je sais que ça, c'est vrai ce que je dis, pas que par rapport à moi, mais parce que j'ai vu des gens en témoigner. J'ai vu une dame en phase terminale de cancer qui était rayonnante et un exemple pour moi dans un culte, dans sa louange. Je l'ai vu. J'ai vu Audrey qui était en paix dans son deuil. Je savais qu'elle était triste, je savais qu'elle ne l'endormait pas, mais elle me dit, là je me sens en paix. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je l'ai vu prier, et puis un jour je l'ai vu en paix. Le deuil, elle le vit encore, mais elle était en paix. J'ai vu un ami qui était en deuil, il avait perdu sa femme. Je ne peux même pas imaginer ce que je ferais, comment je serais si je perds ma femme, mais lui il avait perdu sa femme, et il avait la larme dans sa voix. La voix tout enrouée, mais en même temps, il avait les yeux qui pétillaient quand il me parlait de ce verset. Et Jésus pleura. Et il me disait, mais regarde, Jésus, il était là et il a pleuré. Il a pleuré, il est avec moi et il pleure. Il comprend. Et donc, je sentais à la fois sa douleur, mais je sentais aussi sa joie d'être en Christ, d'avoir trouvé cette chose qui va le faire tenir. Donc à cause de ça, de mon identité, de mon espérance, je me réjouis de ce que je possède. Et c'est basé sur ça que je loue. Je dis, béni soit Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est à partir de là. C'est un mystère pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Mais ça change vraiment les choses, je vous le garantis. La souffrance, les larmes sont encore là. Mais mon attitude vis-à-vis de ce qui se passe, elle est complètement différente. Maintenant, quelque part, je plie, je pleure, mais je casse pas. J'ai quelque chose qui est sécurisé, j'ai quelque chose qui est gardé. Et cette chose, elle est dans la louange. Elle est dans le fait que j'ai trouvé ma place avec Dieu. Si vous vous dites là, tu me racontes un truc religieux, là, qui c'est qui a dit la religion, c'est l'opium du peuple déjà ? Moi, je vous pose une question. Est-ce que quand tu parles à de l'opium, il te répond ? Est-ce qu'il y a des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des mains pour agir ? Donc simplement, juste teste un truc. Lorsque tu es tout seul, appelle à Dieu. Parce que si c'est vraiment une invention, et il se passe rien, tu n'auras rien perdu. Mais moi, je l'ai fait, et il m'a répondu. Et du coup, je sais que c'est pas de l'opium. Je sais que c'est pas juste une idée que je me fais pour traverser un moment difficile. Parce qu'il se passe réellement des choses quand tu t'adresses à Dieu. On pourrait discuter beaucoup de ce sujet, mais ce n'est pas le but. Mais il y a quelque chose de vrai là, dans le sens que c'est pas juste une idée, c'est pas juste une philosophie qu'il y a dans la Bible. C'est une rencontre avec quelqu'un, avec une personnalité en Dieu. Et du coup, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout de la réflexion sur le christianisme, il faut à un moment donné prier. Et tu verras qui va répondre. J'étais allé trop vite, j'ai l'impression. Ah non, c'est bon. Donc, on voit dans le verset 7 pourquoi Dieu permet les épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pour ça que Dieu permet les épreuves. Parce que ce qui est précieux, notre foi, est purifiée. Elle est rendue pure, elle est rendue plus grande, elle est rendue plus belle à travers la souffrance. Parce qu'à travers la souffrance, c'est là que quand je loue à travers la souffrance, ma louange, elle est encore plus authentique. Elle rend encore plus gloire à Dieu. Et donc, je suis encore plus dans ce que je devrais être pour lui. Je suis encore plus dans mon identité. Je me raccroche encore plus à l'espérance en Christ. Et du coup, Christ est glorifié. Je suis à ma place. Et ma foi est purifiée. Donc, la souffrance a un but. Ça, c'est le but général. Le but particulier de ce que vous vivez, vous ne le saurez probablement jamais. Job, quand il est mort, il ne savait pas que le diable avait demandé à Dieu de l'éprouver. Et il ne savait pas que là, même maintenant, des milliers d'années après, on parlerait encore de lui comme l'exemple de celui qui a persévéré dans la souffrance. Il ne le savait pas. Donc nous, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas la fin. Mais on sait qu'il y a un but. On sait que c'est maîtrisé. Et la foi... Regardez la fin du verset 7. Donc la souffrance aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce verset, ça m'explose le cerveau. La louange, la gloire et l'honneur, pour qui ? Pour nous ? On pourrait dire que c'est Christ, mais moi je comprends quand Christ apparaîtra. La louange et l'honneur, c'est pour celui dont la foi a été éprouvée. Et je ne sors pas juste de là, dans tout le Nouveau Testament. Regardez la fin, on a reçu la couronne de gloire. Regardez Romains 8, ce qu'il a appelé, comment ça se dit, j'ai oublié, ma mémoire me fait défaut. Il a purifié et ça finit par, il les a amenés à la gloire. On va être glorifié. C'est-à-dire que la gloire que je donne à Dieu, quelque part, il va me la rendre. Dans Luc 12, Jésus dit cette parabole qui est surprenante. Il dit que quand le maître reviendra, il se mettra à servir ses serviteurs. Dieu, le Dieu de toute éternité, qui a créé la lune, les étoiles, il y a un verset qui dit il leur a donné à chacun un nom. Chacune un nom, aux étoiles, il va me servir. C'est un truc de malade. La gloire va nous revenir à nous. Dans Le Meilleur Pâtissier, petit instant détente, toutes les semaines, il y a un grand chef qui vient et puis les pâtissiers, ils doivent cuisiner pour eux. Et puis à chaque fois, il y en a qui sont en larmes. « Oh, je vais cuisiner pour lui !» Et il va goûter mon gâteau, et puis il va me dire que c'est bien, et puis quand ils disent que c'est génial, et ils n'en peuvent plus. Pourquoi ? Parce qu'on est créé pour louer. Donc la louange qu'on reçoit de la part de celui qu'on loue, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. C'est Tim Keller qui parle super bien de ça, si vous voulez explorer un peu ce sujet. La valeur de celui... La valeur de la louange qu'on reçoit de celui que nous on veut louer, c'est, si j'accorde beaucoup de valeur à quelqu'un et que cette personne me loue, me dit quelque chose de bien, et donc recevoir la gloire de celui qui est digne de toute gloire, vous imaginez, je recevrai une couronne de gloire de la part de Dieu de gloire. C'est la valeur incroyable de la louange venant de Dieu. L'épreuve n'est pas en vain, elle m'amènera là. Parce que là, il lit ça, c'est « Vous êtes éprouvé par l'épreuve pour être glorifié. » Mon épreuve n'est pas en vain. Ça va aller jusque-là. On va aller vite sur le verset 8 et 9. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. » Là encore, c'est la joie qui ne vient pas des circonstances, mais de l'espérance qui vient par la foi, qui nous donne le salut. Avant de conclure, j'aimerais parler encore de la louange. Si on a vu que si Dieu est bon, c'est louer Dieu, c'est être bon, parce que Dieu est la définition de la bonté. On l'a vu ça, vous avez compris mon raisonnement. Donc, La louange, elle va au-delà de juste dire béni soit Dieu. Elle est dans la louange, elle est dans on a dit, elle est dans les pieds, dans les mains, dans les foulards. Elle n'est pas juste dans les mots, et puis elle sort de ce bâtiment, la louange. Elle est dans montrer par mes actes, par mes mots qui ne sont pas destinés à Dieu, que je bénis Dieu, que ma définition de ce qu'il faut faire, c'est Dieu. Et du coup, j'aimerais dire que la louange, elle est aussi dans le service. Elle est dans le service des autres. Par mon argent, par mon temps, par ma disponibilité, par mon attention. Parce qu'on a dit que Dieu, il s'est écarté du chemin par sa grande miséricorde pour nous. Et du coup, si moi je loue Dieu, pour louer Dieu, à un moment donné, c'est pas que ça, hein, mais il faut aussi que je m'écarte de mon chemin pour aller vers l'autre. C'est dans les relations interpersonnelles, du coup. Regardez Matthieu 25, où Jésus il dit, mais... Vous m'avez habillé quand j'étais nu, vous m'avez donné à boire quand j'avais soif, et ses disciples ils disent, mais si. Vous étiez avec quelqu'un qui était nu, vous l'avez habillé. Vous étiez avec quelqu'un qui avait soif, qui avait faim, vous l'avez nourri. Et c'est comme si vous me l'avez fait à moi. C'est aussi dans l'engagement de l'Église. Pourquoi ? Parce que dans l'engagement dans l'Église, parce que Dieu m'a mis dans une Église, il m'a mis dans un corps, il m'a mis pour être le temple. Enfin, le corps de Christ, c'est pas moi, c'est nous. Et du coup, si je veux vraiment être au service de Christ, si j'ai vraiment envie que ma louange aille dans les actes, il faut que je m'intègre aussi aux autres. Que je sois, comme on l'a dit, dans la soumission mutuelle les uns aux autres, dans tous les uns aux autres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Mais aussi, à un moment donné, ça me pousse à servir les autres, du coup. À servir l'Église, à dire, mais où est-ce qu'il y a besoin ? Et demander aux anciens ou aux ceux qui sont en charge de choses, aide-moi à être là où, à trouver ma place. C'est pas juste moi qui fais ma vie et qui viens de temps en temps à l'église, non. Non, il y a tellement plus que ça. Tellement plus que ça. Et quand je vais vraiment aller mal, c'est dans l'église que je vais trouver mon réconfort. C'est dans l'église qu'on va me rappeler, regarde l'espérance que tu as. T'inquiète pas, ton identité en Christ, elle est sécurisée. C'est pas tout seul. Vous passez à côté de quelque chose si vous restez tout seul. Donc c'est aussi dans l'Église. Donc mon dernier encouragement, le voici. Si nous percevons la valeur de la récompense et de la joie qui l'accompagne, posons-nous cette question. Comment puis-je louer Dieu davantage par mon service pour mon prochain et pour l'Église ? Le davantage, c'est peut-être « j'y suis déjà ». Mais l'attitude, est-ce que je me réjouis vraiment ? Ça peut être, il faut que j'arrête certaines choses. Hein. Je ne suis pas en train de dire travailler. Je suis en train de dire trouver votre place dans votre église, mais dans qu'est-ce que vous pouvez amener aux autres. Ça pourrait être 10 prédications, ça. Du coup, je laisse le soin aux autres de poursuivre sur ce sujet. Donc, en résumé, loué soit Dieu, car par Jésus, j'ai l'espérance de cet héritage merveilleux qui m'a acquis par son sang. Cette espérance me remplit de joie, même dans les épreuves qui sont momentanées, dans les épreuves que je vis, car ces épreuves purifient ma foi, ce qui vaudra la louange, la gloire et l'honneur de la part de Dieu lorsque Jésus reviendra. Bénissons Dieu et chérissons l'espérance qu'il nous donne en héritage. Nous serons un peuple joyeux malgré nos diverses épreuves jusqu'au retour de Jésus. Reviens bientôt, Jésus. Amen.